C'est-à-dire que ça s'est pas arrêté pour les audiences, ça s'est arrêté parce que Sarah Michelle Gellar voulait arrêter, que les
Eh
audiences sont pas
oh,
allées
on
continuer.
commence pas le débat avant l'heure là.
Oui. Non,
Qu'est-ce
non,
qui se
mais et moi
passe?
je trouve que.
On n'est qu'une bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour et bienvenue pour ce numéro 20 de Salle Causeur saison 4, déjà épisode 20. Pour ce numéro, j'ai avec moi Iris de Small Things, on va
Tout
dire.
à fait. Bonjour,
puisqu'elle a
Thomas.
écrit sur une série dont on va parler bientôt. Et on a aussi Kevin qui fait son entrée. Kevin qui est journaliste un peu partout, mais aussi sur. Et
Qu'on
surtout
appelle
sur.
pigiste, mon petit.
Voilà, pigiste sur nos écrans.
Exactement. Bonjour tout le monde. Salut la team.
Et on salue Elodie de sur nos écrans qui nous écoute. Alors pour ce numéro, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir du Buffy, du Freaks and Geeks, du Doctor Who et de la série animée. Alors on commence avec le San Diego Comic Con qui s'est terminé il y a peu. Alors pas de grosses coupes, beaucoup de trailers. Par exemple, en news, Impulse a été renouvelé pour une saison 2. On en parlait dans le précédent numéro. Charmed a été présenté. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Et concernant Walking Dead, Andrew Lincoln a confirmé son départ. Donc, il joue Rick dans Walking Dead. Et par contre, côté Doctor Who, alors Doctor Who a dévoilé le trailer de sa saison 11, nouvelle saison, nouveau Docteur, qui sera interprété cette fois par
Jodie Whittaker.
Bravo Iris. Et bien, donc voilà ce trailer. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Kevin, inauguration, vas-y.
Bah, juste comme tu parlais du San Diego Comic Con, il y a aussi quand même eu la bande-annonce d'Aquaman, qui a quand même.
Oui,
dire, quand même pas
mais là on est dans un podcast série, Kevin.
Tout à fait. Mais justement, parce que j'y pensais. Et en ce qui concerne les séries, il y a tout de même aussi toute la team CW, le Arrowverse, qui nous a fait une journée de présentation assez dingue. Le trailer de la saison 5 de Flash, notamment, vaut le détour pour un changement de costume et tout, donc ça vaut assez
un
le détour.
Petit peu, ouais.
Moi, sur Doctor Who, c'est une série que j'ai commencé à regarder par les guests qui étaient. Donc j'ai découvert cette série, non pas en connaissant les comics originaux, etc., mais vraiment parce qu'il y a des acteurs que j'adorais qui allaient dans Doctor Who. C'est le cas de Maisie Williams, notamment. Et j'ai vachement accroché, mais tard, du coup, par rapport à plein de gens. Donc moi, ce changement, j'allais dire, de ligne éditoriale, pas du tout, mais tout c'est ça me choque, ça me gêne pas du tout, je suis plutôt très content, et comme ça au moins ça me permet de découvrir une nouvelle page de la série en même temps que tout le monde. Du coup moi je trouve que c'est plutôt bien, c'est plutôt frais et c'est plutôt bien fait aussi, cette bande-annonce.
Ouais, et moi je suis d'accord avec toi, moi j'ai découvert un petit peu plus tôt que toi, mais finalement il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Et fan de tous les docteurs au fur et à mesure, mais à chaque fois il y a la petite déception quand le docteur s'en va et puis il a découvert du nouveau et puis après tout va bien, je redeviens fan. Et donc là, ce petit trailer, et j'attends avec grande grande impatience comment elle va incarner ce nouveau docteur. Et moi aussi, je suis très contente de ce nouveau changement de taille, puisque c'est devenu une femme maintenant, alors que c'était un homme jusque-là. Donc, avec grande, grande impatience, j'attends la suite.
Et on sait comment ça a été pris d'ailleurs à San Diego, les réceptions critiques de.
Non,
son...
non, non, bah,
je
en fait,
sais,
bah,
je sais pas du tout.
Ceux qui sont venus, de toute façon, sont là pour.
Oui, en général, c'est des gens qui sont déjà là.
Ouais, ils
fans,
supportent,
quoi.
Ils supportent
pas...
le. Et je pense que les. Bon, j'aime pas cette expression, mais les vrais fans. Supporte toutes les idées qu'il peut y avoir. Voilà,
je pense aussi parce que moi j'ai vu énormément sur les pages de BBC, justement sur Facebook et sur Twitter, tous les commentaires haineux, enfin sans rentrer dans un débat engagé féministe ou pas, il y avait vraiment, on se dit, mais je pense que c'est.
Les débats haineux sur quoi? Misogyne, tu veux dire?
Ouais, sur le fait que c'est pas une femme, ça devrait pas être une femme, j'abandonne la série, c'est pourri, machin.
Après,
enfin,
faut
bon,
faire attention avec ce genre de débat parce qu'on va parler de Buffy tout à l'heure, par exemple. Et comment dire? Et c'est comme dire, ah oui, non, une Buffy qui est black, c'est pas forcément raciste de dire ça,
ouais.
Parce que ça colle pas. Est-ce que c'est vrai que là, il y a plein
Bien
de choses
sûr.
avec Doctor Who qui étaient tellement Moi, je trouve ça génial hein, que ça devienne une femme et tout, mais c'est vrai que c'était quand même un mec avec tous ses défauts, quoi. Donc, du coup, il va falloir réinventer. Enfin, c'était très, très masculin comme personnage, je trouve. Donc, c'est pour ça que.
Bah ouais, je sais pas.
Non?
Au départ, de toute façon, la série, j'ai jamais vu la série dans les années 60, mais moi je considère que enfin, la série, d'abord elle a le droit d'évoluer comme n'importe quelle autre série, ça c'est clair et net. Mais surtout, dans les années 60, faut remettre dans le contexte, si c'était c'est un seigneur du temps, c'est un homme, c'est un docteur, etc. Dans les années 60, c'était plutôt classique, j'ai envie de dire, genre, dans la
Mais
société dans laquelle on était, tout ça. Arrivé en 2005, on a redémarré avec
voilà,
un
c'est ça.
docteur, tout ça, machin. Quand Stephen Moffat est arrivé, il a donc le showrunner de la série qui est arrivé, je sais plus, à la saison 2 ou 3, un truc comme ça, de la nouvelle version. Pareil, c'était très. Lui, il a brossé le terrain, mais 1000 ans avant, quoi. Enfin, si ça surprend les gens maintenant que c'est devenu une femme, c'est parce que les gens, ils n'ont pas regardé la série, en fait.
Non mais oui, non mais je suis là, mais le truc comme tu l'as dit, c'est qu'il y a eu deux, il y a deux phases Doctor Who. Hein. Moi, le Doctor Who que je connais vraiment, c'est celui de la relance depuis 2005. Je crois que c'est
Ah
la
oui, moi
douzième ou
aussi,
la
hein.
treizième Docteur, je crois, 12e ou 13e, un truc comme ça. Je dis
Elle,
douzième Docteur.
c'est la 13... attends.
Crois que c'est la
Oui,
douzième
c'est
de
la
la treizième.
13e. Non, c'est la 13e. C'est
Mais
la
donc,
13e.
moi je trouve ça très bien, je trouve ça très frais, etc. Après, c'est vrai que ça marchait tellement avec ce format-là qu'on se dit pourquoi 12 ans après, enfin, on aurait peut-être pu attendre un petit peu, mais tout le truc est beau à prendre, donc moi je suis pressé de voir ce que ça donne. Encore une fois,
Ouais.
je ne fais pas partie des fans
Et
depuis les années
est-ce
60.
que, parce que en fait, quand on voit là, il y a aussi beaucoup de critiques sur les séries que c'est écrit par beaucoup d'hommes. Et là, je vois là les listes des scénaristes sur Doctor Who. Il y a quand même beaucoup d'hommes. Est-ce que ça va pas non plus nourrir un peu la polémique de dire, bah voilà, c'est un personnage de femme écrit par des hommes?
Ah oui, mais regarde, Joss Whedon qui a écrit Buffy, il a écrit une des personnages les plus féministes du monde et c'est un homme. Hein.
Ouais, c'est
Donc,
clair,
bref,
c'est clair.
ok,
Ah,
non, c'était juste une
Chris Carter.
question.
Non, non, mais oui, comme Chris Carter aussi, à l'époque où Scully était la femme forte,
L'époque où
c'était.
non, à l'époque où il écrivait bien pour Scully surtout.
Voilà,
Mais
non, mais c'est
regarde,
ça.
Chris Carter, là, justement, s'est pris plein de critiques là-dessus.
Oui.
Et Joss Whedon a été au cœur d'une polémique comme quoi, via sa femme, je crois, il était. Enfin, je sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que c'était vraiment la polémique autour de Joss Whedon en début d'année, mais voilà, il n'était pas tout blanc. C'était pas le
Bah,
modèle, quoi.
après, on est un peu dans une société un peu là où dès qu'il y a un pas de travers ou même un pas qui est placé tout droit, de toute
Oui,
façon, il y a
voilà, c'est
quelque chose à
ça.
redire.
Il
Donc...
faut remettre aussi à chaque fois puisqu'il y a un scandale sur un acteur, un créateur, un producteur, un scénariste ou un auteur depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi,
Ouais, c'est
il faut
ça,
remettre
c'est
tout
ça.
ça dans le contexte. Joss Whedon, c'est quelqu'un qui a réinventé Alien et le visage de la femme dans Alien 4 avec Winona Ryder et Sigourney Weaver, qui a ensuite
Ouais.
réinventé Buffy, qui a réinventé, qui a vraiment mis des badass dans, enfin, qui a réinventé la femme dans l'univers comics dans Avengers. Donc c'est quelqu'un, on peut vraiment. C'est pour ça que c'est pas trop grave. Si Joss Whedon est scénariste d'un truc femme, parce qu'on sait ce qu'il a fait avant. Là, c'est vrai que Doctor Who, là où tu as raison, c'est que. Mais si, les femmes ils écrivaient bien pour les femmes avant, mais c'était des guest stars, quoi.
Oui, c'était des guest stars, mais je trouve que ça marque le terrain. Par exemple, le maître qui est l'ennemi juré du docteur, enfin l'ennemi qui était son ami avant et qui est devenu son ennemi juré, il est devenu une femme qui, je trouvais, le meilleur rôle du maître, en fait, hein, personnellement. La
Oui,
femme,
oui, oui, oui.
Missy, elle est exceptionnelle, quoi. Enfin, donc, bon, voilà, je pense que c'est comme si on disait, bah nous, on n'a jamais écrit de série, donc on n'a pas le droit de critiquer. Bah pourquoi un homme aurait pas le droit aurait pas le talent pour écrire un bon rôle d'une femme, en fait, quoi.
Exactement, mais aussi, et puis d'un point de vue de l'actrice aussi, là où on peut quand même y aller les yeux fermés, c'est quand même que je sais pas si vous regardiez Broadchurch,
Broadchurch,
mais
oui.
elle était quand même assez
Elle
dingue.
est, ouais, elle est, ouais, j'ai confiance en son jeu
Ouais,
d'actrice.
pareil.
D'ailleurs, dans le peu qu'on aperçoit dans le trailer, je sens que je vais m'éclater, quoi. Clairement, oui, c'est une bonne actrice. Il y a pas de doute là-dessus, quoi. Clairement,
Ouais,
aucun
enfin,
problème.
d'accord. D'accord, bah très bien, très bien, très bien. Donc ça arrive, ça arrive, ça arrive quand? Ça arrive en octobre. Évidemment, il n'y a pas de date, je crois que ça n'a pas été annoncé.
Non, ça n'a
Je crois
pas
pas.
été annoncé. Octobre, c'est ce qui a été supputé par les fans, en fait.
Ouais. Donc très bien, bon, Docteur Who, bah moi je suis toujours pas. Enfin, ça m'attire toujours pas, donc voilà. Ah oui, bon,
Pourtant, il
alors,
faudra.
oui, bon, faudra, je sais pas. Il faudrait peut-être, mais il faudra, je ne sais pas. Kevin, je sais que vu que tu nous en as parlé un petit peu, tu veux revenir sur la CW avec Supergirl, Flash, Arrow et tout ça. Parce que j'ai
veux
vu les
toujours
trailers, et
revenir
c'est vrai
sur
que
la
moi, ça m'a pas.
CW. Je
Moi,
veux
ça m'a
toujours
pas.
revenir sur la CW avec Flash, Supergirl et tout
Moi,
ça.
les trailers m'ont pas. Bon, voilà.
Non, 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 juste là, le Supergirl, ce qu'ils nous... j'ai pas aimé la bande-annonce qu'ils ont. Ce qui est dingue, c'est quand tu vois la bande-annonce qu'ils ont mis il y a 4 ans maintenant à la Comic-Con, quand c'était la première saison, était très comédie. Et que comment dire, et que la... Ah, attends, parce que là, j'ai deux... tu sors de... Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a 4 ans, quand ils ont fait la bande-annonce pour le premier qu'ils ont diffusé, la Comic-Con pour la première saison, et celle qu'ils ont diffusée hier, mais il peut pas y avoir plus de différence entre les deux. Ça que je trouve dingue. C'est vraiment devenu une série complètement geek qui va essayer de respecter plus les comics maintenant, et je trouve ça assez dingue, le grand écart qu'ils ont fait dans ces saisons-là. Par contre, celle de Flash, moi, je regarde pas Arrow, donc j'ai regardé celle d'Arrow, mais vite fait. Par contre, celle de Flash, je l'ai trouvée extrêmement réussie. À l'image aussi réussie que le départ de la saison dernière était mauvais. Si vraiment le début de saison, non mais vraiment, si le début de saison est à la, déjà qu'ils ont bien fini la saison dernière, alors qu'avant ils partaient dans du Mr. B, on ne comprenait pas pourquoi. Là ils l'ont vraiment bien fini et si
Tu me
le
fais
début de
peur là.
saison est à la hauteur de ce que j'ai vu là comme bande-annonce, c'est assez dingue. Là, ces histoires de bagues d'ailleurs qui réinventent le costume, j'ai trouvé ça dément cette bande-annonce de Flash qui dure 2 minutes 54 d'ailleurs, qui est une assez longue bande-annonce, rarement 2 minutes des autres, et je l'ai trouvé vachement bien.
Ah, tu me donnes envie de la regarder, parce que moi j'ai vu que les 3 premières saisons de Flash, puisque je suis le rythme Netflix. Et
Ah.
même si c'est... Voilà, c'est pas la série du siècle, mais je peux pas m'empêcher de regarder quand même.
C'est
Parce
une
que c'est...
là les trailers, de toute façon, vu qu'ils ont tourné peut-être un ou deux épisodes de la nouvelle saison, ils montrent vraiment ce que va être le premier épisode, quoi. Donc c'est vraiment pas
Oui,
ça
c'est...
reflète
Oui.
pas ce que va être la saison pour l'instant.
Exactement, oui, parce qu'ils ont terminé de tourner de toute façon le premier épisode. Ils ont commencé le tournage du 2, je crois, en début de semaine dernière. Donc, de tous les trailers, c'est que des images du 1. Et je crois que
D'accord.
Supergirl, il y a d'ailleurs plus d'images de la saison dernière que d'images du
De
premier
la
épisode. Mais
nouvelle,
Flash, par contre, c'est vachement bien foutu, hein. Vraiment, ils m'ont assez épaté sur ce. Ça donne
ouais.
vraiment. Enfin, j'imagine en plus sur les écrans du San Diego, ça devait être assez dingue.
Moi,
Ouais, c'est...
j'ai tout lâché les séries d'ici, donc
C'est vrai? Plus de
ouais.
Supergirl? Plus
Non.
de.
Ouais, mais à chaque fois que je lâche, ça devient mieux, donc c'est un peu con, quoi. C'est.
Ah,
Non, mais c'est vrai que
donc
pour
ça veut
avoir.
dire le dernier épisode de la dernière saison de Flash, moi tu sais j'ai détesté la saison, le dernier épisode il y a 15 minutes d'effets spéciaux, j'ai l'impression qu'en 15 minutes il se rattrape d'une saison de rien, de néant,
Ouais.
et en 15 minutes il y a des plans mais tellement incroyables que le final m'a fait aimer cette saison 4 au final.
Ouais. Moi,
Ah.
j'avais commencé, j'ai abandonné. Donc,
Oh.
ben, c'est
Ah,
vrai que
j'y pense pas, il était un
le
peu
ton
trop long.
était trop léger. Bon, après, ça s'améliore a priori, mais pour moi, c'était fini, quoi.
Ah
C'était.
ouais, le ton est dans la saison 4 est extrêmement léger. T'as raison, c'est une catastrophe.
Alors, parlant
Un ton aussi. Ouais. Non,
de
non,
oui.
mais.
Non, mais ils étaient plutôt relativement dark, entre guillemets, si on peut considérer ça comme dark, dans la saison 3. C'était quand
Ouais, bah
même.
c'était un peu
La
trop,
saison
quoi.
3 était
Ouais.
hyper dark, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont allégé la saison 4, sauf que ça
Oui,
devient
bah oui.
Mr. Bean. On part du choix de
Ah.
Sophie et on arrive à Mr. Bean en une saison, c'est quand même un peu.
Bon, alors, Iris, tu vas nous parler d'une série qui s'appelle Les Têtes Vides. Alors, est-ce que c'est
Oui.
un biopic de l'émission?
Alors,
Je
voilà, ça c'est fait, merci.
pensais que tu allais rire beaucoup plus, c'est dommage.
Ah, pardon, je suis désolée. Oui, Les Têtes Vides en anglais, The Hollow, qui passe donc sur Netflix en l'occurrence. Et donc j'ai découvert complètement par hasard cette série puisque j'avais envie de découvrir un nouveau truc et puis je suis à fond dans les dessins animés. La création de dessins animés, en fait, à titre personnel. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, allez, je vais regarder un peu pour regarder la technique, tout ça. Et puis, finalement, il s'avère que l'histoire est géniale. Elle fait super envie. C'est une histoire avec. Donc, c'est 3 adolescents qui se retrouvent au milieu, enfin, dans une pièce vide. Et ils n'ont aucun souvenir de qui ils sont. Et ils doivent après vivre un peu des aventures au fur et à mesure. Ils vont réussir à s'échapper de la pièce, etc., etc. Et donc, je suis pas encore arrivée à la fin de la saison 1, mais j'ai vu 7 épisodes, je crois, ou 8. Et c'est extrêmement bourré d'action. C'est rigolo, parce qu'il y a des... Ouais, il y a des... Comme les 3 personnages ont 3 caractères différents, c'est deux garçons et une fille. Du coup, même s'ils ont des blagues un peu attendues, parfois pas du tout complètement inattendues, mais voilà, ça marche bien, ils sont assez rigolos. Et les aventures, elles sont dingues, quoi. Elles sont dingues. Et plus on avance, plus je me dis, mais où est-ce qu'ils nous emmènent, quoi?
Ah ouais.
Ouais.
À ce point-là.
Bah écoute, oui. Franchement, j'ai été assez surprise. Alors après, on reste quand même dans la série pour ados, on va dire, pour enfants, qui est tout à fait regardable par les adultes, bien sûr. Peut-être moins par les petits enfants, parce qu'il y a des trucs qui peuvent quand même faire un peu peur. Mais bon, là, je commence à déterminer eux aussi où est-ce qu'ils se trouvent. Mais peut-être que c'est une fausse piste et qu'ils partiront complètement ailleurs. Mais voilà, moi j'apprécie beaucoup cette série. Elle est très fraîche et vachement sympa, quoi. Et je la regarde en VF, enfin, du coup exceptionnellement, parce que j'ai plutôt tendance à regarder en VO, mais elle est bien doublée, elle est très propre, quoi.
Et il y a 10 épisodes.
Ah, c'est
Ah
tout de
bah,
combien de temps?
20 minutes.
c'est une vingtaine de minutes, ouais, par
Ah, ça se
épisode.
regarde vite. D'accord, très bien.
Ouais, ça
Ouais.
se regarde vite et il y a énormément d'action. En 20 minutes, enfin, ça fait longtemps que j'avais pas vu des épisodes comme ça d'une série quelconque avec autant d'action, quoi.
Allez, Star Wars Rebels. Pardon.
Bah, je l'ai pas vu celui-là. J'ai vu The Clone Wars, mais pas Star Wars
C'est
Rebels.
vrai, il y a
Ouais.
Sarah-Michel Gellar qui fait une voix dans Star Wars Rebels.
Ah,
Ah, bah,
écoute.
raison de plus de ne pas regarder. Alors,
Oh!
donc
C'était
c'était Les
facile.
Têtes Vides sur Netflix qui est dispo depuis un mois, je crois, à peu près.
Ouais, ça fait pas longtemps, ouais.
Alors, Kevin, parle-nous de Pause qui va se terminer,
Ah.
bah, qui, enfin, à l'heure où vous allez écouter, ça sera terminé parce que le dernier épisode est ce dimanche.
Ah, ouais.
Dis-nous tout.
Oh là 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 là, ok, je vais essayer de le faire en 4 minutes pause. C'est une série qu'on attendait depuis longtemps. Alors, on va oublier Ryan Murphy 2 secondes parce que c'est une série hors Ryan Murphy. C'est juste une série nécessaire. Ça passe sur un créneau le dimanche soir à 23h, qui est un créneau où il y a eu notamment Queer as Folk sur Showtime. C'est un créneau qui est important le dimanche soir pour tout ce qui est culture queer. Ils le foutent le dimanche soir. Là, pour la toute première fois, on parle
Bizarre.
de la culture queer, donc au début des années 80 à New York, dans la culture afro-américaine. C'est-à-dire que il faut qu'il ait.
Wow.
C'était très mal barré, hein, parce que au début, la série, quand il la teasait, on disait on aurait dit une série autour de la danse ou de la mode, on ne savait pas trop ce que c'était. Au final, il arrive à nous faire le Diable s'habille en Prada en série, mélangé à un Philadelphia en série. C'est la toute première
Wow.
fois qu'on voit des actrices transsexuelles, réellement transsexuelles, puisque dans Transamérica, notamment Felicity Huffman est une fille, mais qui joue une trans. Là, il fait confiance à au moins une dizaine d'actrices trans qui ont un charisme. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce souffle-là à la télévision, puisque du coup, elles ont conscience de la chance qu'elles ont, elles donnent tout. Donc, au niveau du jeu et de l'interprétation de ces femmes-là, ce sont des femmes, c'est incroyable. On va plus loin, c'est pas du survol sur qu'est-ce que c'est que la sexualité d'un trans ou d'une trans, etc. On va vraiment. On ne montre pas des choses qu'on a déjà dit plusieurs fois avant, notamment sur les années Sida. On sait que ces années-là étaient difficiles, sauf que là, on va clairement dans les chambres d'hôpitaux voir ce que c'était avec les malades. C'est une série qui est extrêmement optimiste et optimiste, mais comme il montre à quel point c'était créatif le soir dans tous ces bars, pas interdits, mais underground, eh bien c'est aussi créatif parce que plus les gens ont envie d'être créatifs la nuit, plus ils morflent dans la journée et plus ils ont de peine dans la journée, notamment à avoir un ami de leur carnet d'adresse disparaître tous les jours. Donc c'est une série qui veut toucher à tout, qui veut toucher autant au thème de la danse underground, de la culture queer, que ce qui se passait malheureusement, les choses néfastes de cette culture-là, c'est-à-dire le sida, le fait que début des années 80, le président ne voulait même pas en parler, que c'était considéré comme le cancer gay, que les infirmières voulaient pas aller dans les chambres d'hôpitaux près des malades, etc. Et hormis Philadelphia, et encore Philadelphia c'est différent puisqu'on ne voit pas la vie des gens autour de cette maladie-là, on voit le malade, mais pas comment ça gravite autour, la peur, la crainte. On voit Antonio Banderas un petit peu, mais on ne voit pas vraiment une vraie relation d'amour avec quelqu'un qui est malade. Là, c'est Philadelphia, mais en série. Et c'est pour ça qu'au tout début, c'était compliqué. Ryan Murphy, il a dû, il s'est ciblé comme série. Il savait dès le départ que ça ne va pas intéresser beaucoup de gens. Déjà intéressé avec la culture queer, il faut le faire. Intéressé avec la culture queer au début des années 80, encore plus. Mais en rajoutant en plus dans la culture afro-américaine, c'est franchement. Donc ça a fait 500 000 personnes, sauf que la série est tellement nécessaire. Je pense que la presse est assez unanime là-dessus, que ce soit la presse branchée comme la presse pas branchée. C'est vraiment une série nécessaire pour plein de gamins. C'est un devoir de mémoire, cette série-là. Et en plus, c'est bien fait, c'est beau, c'est bien réalisé. Et moi, ça a été un coup de cœur. Moi, je peux pas me. Au début de le pilote, je me suis dit, OK, ils vont partir dans tous les sens, ça va pas pouvoir être bien parce qu'ils veulent traiter trop de sujets. Evan Peters, notamment, qui joue le rôle d'un hétérosexuel qui couche avec des transsexuels, mais qui n'est excité par des trans que quand elles ont des pénis, c'est quelque chose qui arrive à énormément. Enfin, pas énormément, mais c'est quelque chose qui arrive. Ce sont des pratiques qui existent dans la vie depuis longtemps. et dont personne ne parle. Tout le monde évoque la dans The Duty, notamment dans The Deuce, ils évoquent la sexualité, mais c'est pas, on n'évoque pas vraiment ce que, qu'il y a des hétérosexuels qui peuvent se sentir attirés par ça. On touche à des choses, sans jeu de mots, qu'on ne touchait pas avant. Et c'est pas du survol, et Ryan Murphy, ça fait longtemps qu'il n'a pas écrit quelque chose, évidemment, d'aussi personnel. Dès que c'est personnel, c'est super bien écrit avec lui. Et ça vient d'être renouvelé pour une saison 2, alors que les audiences ne sont pas top. Je pense que le bouche-à-oreille va se faire énormément dans le monde entier après la diffusion de cette saison. Je pense que la saison 2, qui va être en tournage bientôt, va, l'année prochaine, va repartir avec de meilleures audiences parce que le bouche-à-oreille va se faire, parce que c'est vraiment une série... Et je pense en plus que ça ne parle pas que aux trans, gays, blacks, voilà. Je pense vraiment que c'est une série qui... Il y a des gens qui ont envie de savoir ce qui se passait dans cette communauté-là quand tout le monde était porteur ou atteint du virus du sida et qu'ils trouvaient personne pour en parler, que les autorités publiques n'en parlaient pas. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de savoir comment ça s'est passé. Il y a des gens qui ont envie de savoir aussi comment on est black dans une famille évangéliste américaine, qu'on arrive à New York dans le milieu underground et qu'on arrive à se faire adopter, ça peut parler à tout le monde tout en restant ciblé, et je trouve que c'est une vraie réussite. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, moi, ou aussi, aussi bien écrit.
Alors, reprends ton souffle. Hein.
Oui,
bah
dis donc.
bois ta grenadine. Tu peux boire ta grenadine. Tu vois, Iris, c'est pour ça que je voulais Kevin, c'est que quand il parle, on l'arrête plus. Il est passionné, le mec.
Ah non, mais moi, il me donne envie de voir la série pour le coup, parce que j'en ai pas du tout entendu parler.
Il met de l'énergie. Hein. Non, j'ai pas vu.
Ah bah voilà.
Ça s'appelle Pause, c'est ça ?
Pause,
ouais. Pause, et que vous n'en ayez pas entendu parler, c'est normal, un petit peu comme Feud l'année dernière. Canal+, qui a racheté toutes les séries de Ryan Murphy en voyant le contrat très juteux de Netflix qu'il va avoir après, bah, ils rachètent aussi les derniers du catalogue. Donc, ils ont passé Feud sur le vieux cinéma l'année dernière. J'ai plein d'amis cinéphiles qui sont passés à côté, qui n'ont même pas su que ça passait sur Canal le dimanche à 22h30. Et là encore, alors que c'est une série qui peut le faire du bien à énormément de jeunes gays, lesbiennes, trans, même des gens différents, des queers, des gens qui ont une sexualité normale, mais qui sont un peu différents dans leur état d'esprit ou leur façon d'être, ça peut leur faire énormément de bien, cette série. Personne ne sait qu'elle passe sur Canal tous les lundis à 22h30. Donc, je trouve que ni même au niveau de la promo, ils ont très mal fait leur truc.
Alors au casting, on retrouve donc Evan Peters, qu'on a vu entre autres dans American Horror Story.
C'est lui qui joue l'hétéro qui peut baiser qu'avec des trans.
Il y a aussi Kate Mara, la splendide Kate Mara, qu'on a vu dans American Horror Story saison 1, je crois. Et dans House of Cards aussi. Il y a James Vanderbeek.
Oui, oh là, j'ai pensé à toi, évidemment. Ah oui, j'ai pensé à toi au pilote, parce que qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, il a pris 20 ans dans la gueule, mais qu'est-ce qu'il est bon, quel bon comédien.
Oui, mais c'est un bon comédien,
Là, je n'en doute plus, vraiment, parce qu'il m'a bluffé, il m'a vraiment bluffé. Et il joue avec Evan Peters en plus, alors que c'est deux jeux complètement différents, ouais. et ils ont une alchimie de dingue. Il m'a vraiment bluffé.
Et pour toi, c'est pas une série qui ressemble à du Ryan Murphy?
Non, parce qu'en fait, avant, quand il utilisait ces thèmes-là, notamment dans Glee, quand il utilisait le jeune gamin qui assume son homosexualité, mais sa différence de sexualité et de comportement, c'était du survol. Là, c'est pas du survol, là, ils vont au fond des choses. Le problème de Ryan Murphy, sauf dans Feud, où il va, comme il est cinéphile, il va... Autrement, c'est du survol sur la psychologie des personnages. À force de vouloir trop dire, on dit rien. Et là, il y a peu de personnages, tous très complexes, et tous ont leur place, leur histoire, c'est vraiment extrêmement bien écrit. Je pense que c'est extrêmement personnel pour lui. Je pense qu'il a dû vivre des... Et c'est vraiment, pour une fois, c'est extrêmement bien écrit. Ça ressemble à du Ryan Murphy sur les thèmes, mais ça ne l'est pas, parce que là, c'est vraiment en profondeur. Et c'est vraiment... Je te dis, c'est Ryan Murphy qui rencontre HBO et The Duty, notamment. D'accord. Vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans The Duty, mais avec les thèmes et l'écriture de Ryan Murphy. C'est vraiment passionnant. Moi, ça va être compliqué de retourner dans ces conneries comme... Bon, bref, c'est vraiment bien. J'utilise Philadelphia, c'est Philadelphia qui rencontre The Duty. C'est vraiment ça, c'est
alors,
vraiment regarder.
Hein. Reste sur ta... Alors, reprends ton souffle, parce que là, je vais te laisser aussi la parole sur Freaks and Geeks. Alors, présente-nous d'abord un peu la série, et ensuite ce que tu as vu, parce que la série revient sur le devant de la scène par un documentaire.
Par un documentaire, ouais. Freaks and Geeks, c'est une série qui a été créée par Judd Apatow en 1999. Une série qui, à l'époque où il n'y avait ou que des sitcoms ou des drames, voulait faire des espèces de dramédies. Un mélange des genres que tout le monde fait maintenant, qu'il ne faisait pas à l'époque. Bon, t'as vu, j'ai regardé le documentaire parce que je te cite une phrase du documentaire. mais c'est une série qui a révélé Seth Rogen, qui n'avait jamais tourné avant. Toute la bande à James Franco, en fait. La bande de films qu'on a vu ensuite dans Délire Express, dans C'est la fin... Dans The Interview, l'interview qui tue, qui a fait une telle polémique. Tout cet humour-là et cette bande-là est né avec Freaks and Geeks. Ils avaient tous 20 ans, Judd Apatow en avait 40. Il écrit une série avec un ton très original. Il veut ni de beaux mecs, ni de belles filles. Il fait un casting ouvert où il trouve les comédiens les plus déjantés et tarés du moment. James Franco doit faire le rôle du beau gosse. Judd Apatow le trouve pas assez beau. Et sa femme dit non, mais si, c'est un super canon, il faut que tu l'engages absolument. Et il a explosé dans cette série-là. Et c'est une série qui a été diffusée sur un time slot compliqué aux États-Unis, qui est le samedi soir à 20h. Alors que le samedi soir à 20h, quand c'est pour les 15-24, les 15-24 sont dehors. Donc du coup, c'était génial que la série soit choisie, mais malheureusement, ils ont choisi un très très mauvais créneau NBC, je crois. Et du coup, au bout de l'épisode, le premier épisode a cartonné. Mais il y avait des scènes un petit peu compliquées pour les gens qui restaient chez eux le samedi à 20h. La cible de Freaks and Geeks n'était pas devant son poste au moment de la diffusion. Du coup, ça a droppé, plus d'audience pour le deuxième épisode. Et à partir de l'épisode 10, la série a été annulée, mais le tournage a continué puisque NBC avait commandé une saison entière. Et du coup, ce qui doit être horrible pour un comédien, je n'arrive pas à me mettre à cette place-là, c'est qu'ils ont tourné l'épisode 10 à 18 en sachant qu'il ne serait pas diffusé. Et Judd Apatow qui avait la bonne idée de dire non, attendez, on est en train de faire quelque chose de bien, faites-le. Parce que ce sera sûr, les gens vont le voir un jour. Résultat des courses, les 8 ou 9 années qui ont suivi, toutes les stars de Freaks and Geeks sont devenues des stars avec leur propre univers, dans leur propre ou série ou film. Linda Cardellini, elle allait vers Urgence. James Franco, il a fait de la trilogie des Spider-Man et les films qu'on connaît. Seth Rogen aussi, avec le site Funny or Die. Donc, ils ont tous réussi à faire le petit bonhomme de chemin. Ils se sont retrouvés pour des films qui, eux, ont cartonné. Et depuis, la série est devenue assez culte. C'est-à-dire que les gens la regardent, se la repartagent, les gens comprennent l'humour de Freaks and Geeks après, comme un peu comme Buffy, où tout le monde dit que c'est génial 15 ans après, quand tout le monde disait que c'était de la merde il y a 15 ans. Et du coup, la série est arrivée sur Netflix il y a quelques années. Ça a eu un très très joli succès sur Netflix, avec une jolie restauration d'ailleurs. Les 18 épisodes, donc, puisqu'il y en a 8 qui n'ont pas été diffusés. Et il y a un tel regain de popularité sur cette série que souvent on parle de reboot, mais c'est compliqué, c'est une série sur le lycée, donc faire un reboot, c'est vraiment... Et il y a un documentaire que A&E, la chaîne qui diffusait notamment Bates Motel, a diffusé cette semaine dans le cadre d'une collection qu'ils avaient, où ils reprennent la biographie de beaucoup de séries ou de beaucoup d'acteurs. Et pour la première fois, on voit tous ces acteurs, on voit des images déjà des coulisses qu'on n'avait jamais vues avant, toute la jeunesse de la création, comment est-ce qu'a été vécu de l'intérieur ce fameux truc de ça marche plus, c'est annulé, mais on tente quand même. James Franco, qu'on n'a pas entendu parler depuis le début de l'année, depuis les affaires dont il fait l'objet, qui a décidé de se taire, qui revient là pour parler de Freaks and Geeks, et c'est hyper pertinent ce qu'il dit. Et ça dure que une heure et c'est vachement bien. C'est vraiment à regarder, ça donne envie de regarder la série. C'est 18 x 52, qui est plus dispo sur Netflix France d'ailleurs.
Ah merde!
Qui est dispo sur Netflix US. Ouais, je comprends pas trop pourquoi ils l'ont enlevé, surtout au niveau de. Mais qui est dispo sur YouTube par contre. Si tu parles anglais, que tu aimes bien ça, et c'est dispo en anglais.
Est-ce que le documentaire, enfin, on apprend des choses, ou est-ce que ça. C'est totalement. On revient sur comment est fait la série et basta quoi.
Bah non, parce qu'il y a plein de, il y a plein d'images in, et puis ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il a été fait en 2018, donc presque 20 ans après. Donc ils jouaient des gamins de 19 ans, ils en ont tous presque 40. Du coup, par rapport à tout ce que Freaks and Geeks a, il n'y aurait pas certaines séries sans Freaks and Geeks, ils les citent. Eux, ce que ça a apporté dans leur jeu, ils le disent aussi. Ils se rendent compte de ce qu'ils jouaient un petit peu après, puis c'était leurs premières émotions d'acteur, premier plateau. Donc c'est toujours assez intéressant de voir comment Judd Apatow a créé une famille. Et puis il y a aussi cette histoire de tournage de 8 épisodes qui n'ont pas été diffusés. Donc quand on est toute une troupe, etc., tourner pour quelque chose qui n'est pas diffusé, juste avec la motivation du réel qui dit « Vous inquiétez pas, je suis sûr que ce sera vu un jour, donc faites comme si ce sera diffusé et tout. » C'est vraiment, quand on connaît la série, qu'on l'aime bien, c'est vraiment à voir. Et même si on ne connaît pas la série en fait, hein, parce que du coup il y a James Franco, Seth Rogen, donc du coup c'est des acteurs qu'on connaît, qu'on voit. Et il n'y a pas besoin de connaître la série pour regarder le documentaire, par contre après on a envie de le regarder.
C'est pas cette série où il y a celui qui est le plus petit, qui a joué après un psy régulier dans Bones?
Alors, je ne regardais pas Bones, je peux pas te confirmer ça.
Un petit avec des cheveux frisés.
Non, mais ils sont tellement tous petits.
Je vois le petit cheveux. Là, celui qui a pas percé ensuite, ouais. Je pense, alors attends.
Attends,
John Francis Dale, est-ce que c'est lui? Ouais,
c'est lui.
Ouais, c'est lui, voilà.
Ça, ouais. Ok.
Bon, bah
Et
voilà, je trouve que c'est.
regarde-moi juste le pilote pour se faire une idée de la série,
Mais
mais regarde le
j'avais
pilote.
vu, en fait, quand je l'ai vu passer, parce que j'en ai beaucoup entendu parler du Freaks and Geeks, justement, comme avec son statut de culte. Effectivement, je reconnaissais les acteurs, enfin, quelques-uns des acteurs. Et je me suis dit, je vais regarder. J'avais dû regarder le pilote quand c'est arrivé sur Netflix. Et puis, je sais pas, j'ai pas dû accrocher sur le moment, j'en sais rien. Mais je m'étais dit que j'y reviendrais. C'est pour ça que je suis un peu dégoûtée que ce soit parti de Netflix.
Oui, bah, j'ai été
Mais.
surpris aussi parce qu'en pleine actu, en plus, bravo.
Ouais.
Et d'ailleurs, il y a une série aussi qui prend un peu la suite de Freaks and Geeks qui s'appelle Undeclared, qui est aussi créée par Judd Apatow, qui est un peu considérée comme la suite non officielle de Freaks and Geeks. Bon, c'est pas les mêmes personnages, mais il y a une partie des acteurs. Il y a Seth Rogen, par exemple. Il y a aussi Jay Baruchel, qu'on a vu ensuite dans l'excellente Man Seeking Woman. Il y a Charlie Hunnam
Oui, 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 oui,
qui
oui.
joue il joue dedans. Il y a aussi donc Seth Rogen joue aussi dedans.
Adam Sadler.
Non,
Ah si, il y a Adam Sandler qui joue dedans.
je ne pense pas.
Ah si, ah si, si, si.
Ah non, vous faites
Ah
fausse
si.
route, monsieur.
Ah t'es sûr? Attends.
Ouais, enfin il fait une guest, un
Ah
guest.
c'est sûr, je l'ai vu dedans.
Oui, il fait un guest.
Ah bah voilà, bah tu
Voilà. Il y a
vois,
même Tom
évident.
Welling en guest. Donc voilà, il y a une des classes qui s'appelle en français Les années campus et il est
Ouais,
pareil
mais ça,
qui a pas
tu le
marché.
retrouves où? Moi, je ne l'ai plus jamais retrouvé, ça.
Oh, je dois les avoir quoi, quelque part.
Oui,
Je
parce que
sais.
Judd Apatow, c'était une gimmick hein, quand ils ont fait Délire Express tous ensemble et que ça a été un carton monumental. Il dit, vous pouvez pas imaginer comme ça fait du bien d'enfin pouvoir vous engager dans un truc qui marche. Judd Apatow, avant les films et tout, c'était flop et compagnie.
C'est
Mais au
vrai.
moins, il faisait ce qu'il voulait. Et ça n'a pas vieilli quand tu regardes Freaks and Geeks, hormis les réseaux sociaux dont on ne parle pas. Ça pourrait être fait complètement maintenant.
Et Judd Apatow qui a co-créé Love sur Netflix, qui s'est arrêté après 3 saisons.
Ah, je savais pas.
Et oui. Bah très bien. Bah maintenant bon, j'allais dire on va passer au gros morceau, mais c'était déjà pas mal là ce qu'on a
C'était
dit.
déjà un bon gros morceau,
Ah
là.
oui. Donc la nouvelle a parcouru les internets, comme on dit, sur Joss Whedon qui planche sur un reboot de Buffy. Alors la question elle va être simple, comment et pourquoi rebooter Buffy? Ou plutôt, peut-on et doit-on rebooter Buffy?
Alors, avant
Avant toute
toute
chose.
chose, non mais du coup j'ai un vieux doute. Qui c'est qui... Bah si, c'est Joss Whedon aussi qui a été annoncé sur HBO avec sa nouvelle série,
Oui.
The Nevers.
Oui. HBO, Joss Whedon revient à la télévision depuis Firefly, il était pas revenu. Non,
Voilà,
il y
c'est
avait la
ça.
série avec, je mens, il y avait Ilsa Dushku,
Dans
c'est
House.
celle qui est après.
Dans House,
Ouais.
ouais.
Voilà, et il revient à la télévision là sur HBO, effectivement. Ça a été annoncé un petit peu avant le retrait
Voilà.
de.
Donc il faut qu'il arrête de s'éparpiller, il reste sur cette nouvelle série et il nous fout la paix avec
Joss
Buffy.
Whedon. Oui, mais rappelle-toi, Joss Whedon est le mec qui a amené les crossovers aux États-Unis. Aux États-Unis, Joss Whedon, il jonglait en 1999
Oui,
entre
avec
Buffy, Angel,
Angel, Buffy, tout ça,
Firefly.
ouais.
Du coup, il en a toujours eu plusieurs en même temps.
Bah,
C'est
c'est
pas
pour
faux.
ça d'ailleurs qu'il avait laissé ensuite Angel à d'autres producteurs, enfin d'autres showrunners, je
Bon,
crois.
sauf pour les. Et un peu, il faisait un peu comme Chris
Ensuite,
Carter, hein, il revenait pour les
voilà. Ouais. Il
épisodes
revenait pour
fondamentaux,
le
les
début et
épisodes
fin,
ce qu'on
quoi.
appelle mythologiques, voilà. Toujours les débuts de série, fin de série, les épisodes mythologiques,
Bon,
la
donc
disparition de personnages.
la question.
La
Doit-on,
question.
bah, comment et pourquoi rebooter
Pourquoi
Buffy?
Buffy? Voilà. Oui.
Parce
Iris,
que ça,
vas-y,
donc il y a eu, on
explique.
rappelle, hein, 7 saisons, plus de 140 épisodes, des comics, un spin-off avec Angel. C'est tiré d'un film qui a été aussi écrit par Joss Whedon.
Oui,
Donc
sauf alors
Buffy,
le
alors
ouais.
il y a très peu de séries dont on pourrait parler des heures. Hein. Il y a X-Files, il y a Doctor Who et il y a Buffy, évidemment.
Voilà, c'est ça.
D'ailleurs, on fait un petit coucou au podcast Pourquoi Buffy, c'est
Pourquoi Buffy, c'est
génial.
génial.
Qui
Coucou.
portent très bien leur nom et qui analysent tous les épisodes, enfin qui parlent
Excellent
de
podcast.
Buffy depuis des années et des années.
Ah, c'est bien ça.
Et donc, Buffy, bah voilà, il y a eu 7 saisons. Bon, voilà, à l'époque, c'est
Huit
vrai que.
saisons. Il y a une saison animée aussi après pour Buffy,
Ouais,
huit
bon,
saisons.
il y a eu aussi deux
Alors.
saisons en comics, enfin on peut aller très loin comme ça.
Ouais, mais après, c'est de l'univers étendu,
Mais
non?
donc, à l'époque, c'était quand même considéré comme une série fun. Pas encore culte, pas encore très bien, C'était genre la série qui arrivait juste après le succès d'X-Files. Donc c'était une série un peu plus orientée pour les jeunes. Là, ils trouvaient enfin quelque chose, enfin une héroïne qui leur semblait, avec des problèmes pour eux.
Ado,
C'était
ouais,
encore
tout
à
à fait.
l'époque. Ensuite, toutes les séries qui allaient arriver, enfin, il y avait Dawson, il y a Roswell, Charmed, Smallville, tout ça. Et donc
Alias, tout ça,
Buffy, c'est un
machin.
peu le porte-drapeau de toute cette génération-là, la génération WB, avec Sarah Michelle Gellar et tout le casting. Bon, on va pas revenir sur le statut culte de Buffy, sur quelles saisons sont bien, tout ça, tout ça. Juste, est-ce qu'il faut le rebooter? Comment? Est-ce qu'il faut faire une suite? Est-ce qu'il faut faire un spin-off? Est-ce qu'il faut tout refaire? Est-ce qu'il faut faire un revival? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Eric, vas-y.
Revival, je suis en train d'y penser, ça n'aurait pas de sens vu qu'on était quand même dans un univers très pour les adolescents, donc avec des adolescents. Là, c'est
Pas
des gens.
vraiment pour les adolescents. Dans les années lycée, les saisons 2 et 3 de Buffy sont orientées ados, oui, mais après ça.
Bah, jeunes
Dernière saison, la
adultes, si
saison
tu
13. Ouais,
préfères.
mais ça reste quand même un
Jeunes
truc pour
adultes, si
les
tu
ados.
préfères, oui. Oui, jeunes adultes.
Ça
Voilà, jeunes adultes.
parle des problèmes de la
Oui, bien
vie.
sûr.
De jeunes adultes. Et Revival, oui, du coup, ils ont quoi, 40 balais bien, bien passés, donc ça n'aurait pas de sens.
Bah,
Reboot.
la fille de Buffy, par exemple. Tu vois. Mais bon, ça.
Non, mais du coup, c'est plus un revival, c'est une autre
Ah,
série, quoi. Enfin, c'est
bah
un
oui.
dérivé, c'est un spin-off.
Ah, tu vois, la fête à la maison, c'est revenu. C'est une sorte de revival quand même. C'est les mêmes personnages, mais c'est 15 ans après, tu
Ouais,
vois.
bah, en
Enfin,
même
15
temps,
plus.
j'ai dû voir le pilote de ce revival pour me dire, voilà, et en fait, non, quoi. Enfin, c'est pas nécessaire.
Non, mais
Mais bon.
si tu fais revenir d'anciens personnages qui ont un gros poids sur cette série-là, c'est un revival. Sinon, c'est une sorte de mini spin-off
On est
non
d'accord.
assumé, quoi.
On est
Parce que là,
d'accord.
on parle donc d'une tueuse black, donc comme un peu. C'est Kendra, c'est ça? Parce que
Exactement,
j'ai
Kendra.
pas
Ouais.
revu du tout Buffy hein, depuis la première diff, donc j'ai plus trop de souvenirs. Eh oui!
Ça fait
Non,
que tu
en plus,
parles.
non, mais pour la petite histoire, j'avais adoré les deux premières, et j'étais un peu jaloux que Buffy vienne prendre la part de X-Files à
Bah oui, bien
l'époque.
sûr.
Et
Je comprends
ensuite, après,
totalement.
je me suis un peu fait chier dans les saisons d'après. Et donc j'ai regardé comme ça, mais franchement j'ai pas revu, donc je pourrais pas dire si elle mérite son statut culte. Hein, je vais pas revenir là-dessus. On va encore digresser, mais c'est pas grave. Mais non, bon, pour moi, si on fait un reboot, on change totalement le concept. Enfin pas le concept, mais on change les personnages. On va pas faire revenir d'anciens personnages, sinon c'est un peu surfer sur le. C'est pas assumer le revival, enfin le reboot.
De toute façon, forcément, s'ils font un reboot, il y a un moment donné où ils vont, d'un point de vue purement marketing, ils vont forcément faire appel soit à Giles, soit à, enfin, un des personnages, c'est
Oui, mais
obligé,
alors,
quoi.
justement, c'est ça le truc. C'est que quand on est fan de Buffy, je pense que c'est mon cas un petit peu trop d'ailleurs, la série se termine avec une mythologie qui se termine. Alors, Buffy, ça a été diffusé entre 1996 et 2003. Ça a été très compliqué parce que ça s'appelle Buffy the Vampire Slayer, donc Buffy la tueuse de vampires. Ça a
Ouais.
été considéré comme culte assez rapidement aux États-Unis, beaucoup plus tard dans le reste du monde, sauf en Angleterre, pour cette histoire de doublage, puisque Buffy et l'écriture de Joss Whedon réussissaient par la rythmique des dialogues, du doublage, les jeux de mots et l'alchimie des acteurs. Et en France, ça a été la série. Moi, je vomis et j'ai une totale, mais oh, si je pouvais les. Bref, j'ai des envies de meurtre sur la direction artistique du doublage français. Quand on a une série qui révolutionne les codes dans un épisode musical et qui nous la double en réécrivant les textes des
Ah,
chansons sur la
oui,
machine à
quelle
café le
horreur.
matin. C'est
Ouais.
une honte. Mais
Je suis
maintenant,
d'accord, oui.
les gamins, maintenant, ils découvrent. Moi, je suis ravi que ça ait ce côté culte et je suis assez persuadé que les gamins découvrent ça, non plus en DVD, mais sur Foxplay. La série est arrivée sur Foxplay en HD il y a 2 ans, ou en streaming, ou voilà, parce qu'ils voient vraiment Buffy tel que ça aurait dû être montré. Le doublage français fait qu'en France, ça a été considéré comme Charmed. C'est pour ça que beaucoup de gens comparent Buffy et Charmed, mais il y a des Français, vous verrez. Hein. Dans tous les journalistes qui comparent Buffy et Charmed, ce sont des Français. Pourquoi? Parce que c'était diffusé sur le même créneau horaire, donc le samedi soir, dans la fameuse trilogie du samedi. Sauf
Ouais.
que là où Charmed était aux États-Unis diffusé en semaine, enfin en week-end à 20h pour les 15-24. Buffy, c'était plus tard et ça n'a jamais été que pour les 15-24, ça a été pour un public plus large. En France, ils l'ont doublé, foutu ça à 23h le samedi et bim, la série pour ados type Roswell, type Charmed. J'ai rien contre Roswell et Charmed, sauf que quand Charmed ou Roswell seront étudiés dans toutes les universités, Buffy, c'est la série la plus utilisée dans les universités avec Game of Thrones quand même. Ce statut culte, elle l'a eu en France. Que tard, moi je pense que c'est depuis 2010-2011. Depuis les 20 ans de la série, il y a 2 ans, où ils ont fait la couverture de partout, tout le monde voit que c'est culte, etc., notamment en France. Mais les journalistes français aujourd'hui qui disent que Buffy est culte sont ceux qui disaient que c'était une série de merde il y a 15 ans. Et
en
le
même temps,
problème
les
de cette série, c'est que ça a été le succès de cette série, c'est par ses personnages, par les acteurs, par Sarah Michelle Gellar qui a quand même embrassé le rôle complètement, notamment
Ah oui.
certains épisodes qui sont adaptés de sa vie réelle, notamment l'épisode de la mort de la mère de Buffy. Et ça fait 15 ans que et le casting et Joss Whedon disent que s'il y a un reboot, c'est avec le cast original. Plus les années passent, plus ils disent bon, du coup, ça ne risque pas, mais hors de question. De la bouche même de Joss Whedon, il y a encore 2 ans dans Entertainment Weekly avec le fameux shoot, il y a 1 an, même pas 2 ans, avec le fameux shoot des 20 ans de la série. Et là, qu'il aille nous dire le contraire que ce qu'il a dit depuis 20 ans, c'est-à-dire pas de Buffy sans Sarah Michelle Gellar, sans les acteurs originaux, sans les. Et d'autant plus que pour ceux qui connaissent Buffy, la saison 7, qui est une des meilleures de la série, notamment ses 5 derniers épisodes, qui constituent un arc de fin de 5 épisodes, c'est une série qui n'est pas partie faute d'audience. C'est une série qui est partie parce que son interprète principal voulait partir, et il l'a dit à Joss Whedon dès le début de la saison 7, ce qui fait que toute la saison 7 s'articule vers une belle fin, une fin à la
Oui.
tête haute avec des bonnes audiences. Du coup, il y a la saison 7, je ne vais pas spoiler les gens qui ont envie de redécouvrir la série, mais
Oui,
effectivement, on ne
elle
peut pas
finit la
reprendre.
série, oui.
Voilà, on ne peut pas reprendre certains personnages vu ce qui se passe dans la saison 7, certaines morts ou certains personnages qui vont de. Mais Buffy est tellement à gagner son statut, déjà bien de gagner son statut culturel de série pop, culture pop extrêmement importante, au même titre X-Files. Pourquoi est-ce que tout de suite faire ce. Moi, je le sens pas du tout parce que c'est tellement lié. À Buffy est tellement liée à tous ces personnages, à tous ces acteurs, à tous ces. Et elle vient de gagner son statut culte. Si on veut refaire, je comprends qu'on refasse Buffy avec une autre casting, mais qu'on attende au moins 10 ou 15 ans. Là, si on veut faire un reboot là, alors que les acteurs originaux font tous le tour des Comic-Con encore pour parler de la série originale, c'est un peu étrange. Qu'on attende 15 ans pour faire un reboot avec un revival avec un autre casting, ou là, si on veut le faire vraiment maintenant, qu'on essaye de faire quelque chose avec le casting original adoré des gens dans le monde entier et toujours en état de jouer, quoi. Ils ont 40 ans, nom de Dieu. Donc c'est un choix, c'est très étrange qu'ils annoncent ça maintenant pour les années à venir, en changeant une actrice black et tout. C'est très très étrange parce que les gens commencent en plus, il y a une nouvelle génération qui découvre cette série-là. En fait, c'est comme si on annonçait qu'il y aurait un revival de Friends pour les 15-24 qui viennent de découvrir la série sur Netflix. Ce serait aussi choquant, c'est comme si demain on disait il y a un revival de Friends, mais ce n'est pas les mêmes acteurs. C'est parce que vraiment dans Buffy, ce Scooby-Gang, cette bande-là, est liée à l'alchimie de chacun des acteurs qui sont là depuis le début. Et cette annonce de Joss Whedon va à l'encontre de tout ce qu'il dit depuis 15 ans. Et le fandom est très énervé et a raison d'être très très énervé d'ailleurs. Et aucun des acteurs n'a réagi, hein, vous verrez sur les réseaux sociaux, ni Sarah Michelle Gellar, ni personne. Je pense que tout le monde est très surpris de cette annonce, à moins qu'il y ait déjà des contrats qui se passent, comme quoi il y a des caméos, des acteurs, etc. Mais ça va être compliqué.
Donc
Et puis quand j'entends que j'en
tu
ai eu la
serais
première truc black et tout, non, il y a déjà eu en 1999, quand il n'y avait aucune black woman à la télévision qui faisait vraiment des trucs de combat, Joss Whedon a foutu une tueuse qui s'appelle Kendra, et elle est là pendant toute une saison complète, donc il y a déjà eu des tueuses black et dans la saison 7 aussi. Donc c'est pas
donc
pour un reboot.
tu serais plus partant pour un revival qu'un reboot.
Moi je serais partant pour un, si c'est là comme ils veulent le faire, c'est-à-dire en changeant tout, dans 15 ans. Qu'on laisse un petit temps de deuil. C'est comme si Chris Carter avait annoncé, parce que Buffy s'arrêtait à peu près en même temps qu'X-Files. Buffy s'est arrêté 1 an après X-Files. C'est comme si Chris Carter avait annoncé pour la saison 10 d'X-Files, bim, allez, on refait X-Files, mais avec Mulder et Scully, mais c'est d'autres comédiens. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, ils nous
En
annoncent qu'on
fait,
refait Buffy, mais avec d'autres comédiens. Alors que ça ne.
c'est une mode, ça. Hein. Tu regardes, moi, ça m'a toujours sidéré. C'est l'exemple de. Alors, c'est au cinéma, je suis désolée, mais c'est révélateur. Spider-Man. Moi, je m'étais habituée, j'aimais bien le premier acteur qui avait joué Spider-Man, qui était. Comment ça?
Maguire.
Tobey Maguire, merci. Et plus ça va, plus on reboot 2 ans après avec un petit jeune qui. Plus ça va, plus il a 12 ans. Donc ça devient une mode de faire des reboots beaucoup trop tôt, en fait.
Beaucoup
Et
trop
c'est
tôt, mais
ça
y
qui...
a, on peut aussi le faire avec, regarde, Will and Grace, ils l'ont fait, ça a été un carton complet avec les mêmes acteurs, ils ont vieilli, ça garde cette touche de fraîcheur, mais avec
Avec
les mêmes
les mêmes
acteurs.
acteurs, mais non, revival, je veux dire. Non,
Ah,
attends,
très
c'est
bien.
quoi? Avec d'autres acteurs, en fait, quoi. S'ils
Soyez
veulent faire,
précis.
par exemple, si on voulait faire, comme tu disais, Friends, avec la même histoire, mais avec d'autres acteurs, ou X-Files, moi, j'imagine pas du tout Mulder et Scully qui ne soient pas David Duchovny et Gillian Anderson, clairement. Mais du coup, pour Buffy, je suis assez d'accord, parce que c'est trop tôt, quoi. C'est beaucoup
C'est
trop
beaucoup
tôt
trop tôt.
aussi.
Les gens sont en train de découvrir à quel point cette série est culte. En France, encore une fois,
Et
je l'ai
au...
dit, ça fait 10 ans. Et là, bim, de nouveau. Charmed, on n'en a rien à foutre. C'est une mauvaise série à la
Alors
base.
voilà, mais
Ça s'arrête
justement,
vite, on s'en fout.
au passage, tu nous dis que les journalistes français comparaient ça à Charmed. Les journalistes français, déjà, bon, voilà, ils n'ont jamais vraiment considéré les séries, voilà, encore moins dans les années 90. Mais en plus, il
Tu veux
suffit
dire
juste de mettre
les
côte à côte.
journalistes qui ne sont pas journalistes séries.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Non, mais quand tu mets côte à côte un épisode de Charmed et un épisode de Buffy, t'arrives quand même à faire la différence. Charmed, c'est trois minettes qui sont à moitié à poil
Je suis d'accord avec toi, Iris, mais le samedi soir, avec le doublage français horrible, parce que le doublage a ruiné la série en France. Il y a
Ah,
des
bah,
épisodes qui
ça,
n'ont
oui.
aucun sens de Buffy. Et du coup, pour certaines personnes qui sont tombées là-dessus par hasard, Buffy reste ce mauvais souvenir de ce qu'ils ont vu vite fait à 23h un samedi en attendant le film porno de la 4 en même moment, et qui pour eux, et, non mais vraiment pour les gens qui ne connaissent pas, qui ont vu de loin, et ils sont restés là-dessus. Buffy, le doublage a massacré le statut de série culte en France de Buffy. Que X-Files, non. X-Files a été sauvé par son doublage en France parce qu'il y avait une très bonne direction artistique. Buffy, ça a
Ouais.
été fait entre quatre pains de fromage le matin, et voilà.
Bah, de toute façon,
Donc,
c'est toujours le
alors.
problème de Oui, bon, le doublage, on en parle pareil, on aurait des heures à discuter là-dessus.
Oui, mais
La
à l'époque, on
question,
n'avait pas le
donc
choix.
la tête peut être.
Ouais.
La question, donc, pourquoi sont. Ok? Mais si ça se passe, donc comment rebooter Buffy? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout réinventer ou pas? Ou faire la même chose?
Pour moi, le plus. S'il a vraiment envie de repartir dans l'univers de Buffy, il faut qu'il fasse un spin-off. Clairement, qu'il soit sur autre chose, d'autres personnages, qui fassent vivre l'univers. Mais à la limite, je trouve ça absurde, puisque à la fin de la saison 7, bon, faut pas spoiler, mais à la fin de la saison 7, il n'y a plus de raison d'avoir comment dire, un focus sur un seul personnage.
Oui, ce n'y a
N'y a
pas
plus
qu'une.
aucune raison.
Oui, mais c'est
Donc.
compliqué. Tom, tu ne sais pas du tout quelle est la commande de Buffy se termine, par exemple.
Si.
Ah, mais y a aussi le fait, n'oublions pas que dans Buffy, il y a quand même Spike qui est un personnage important, Angel également, et qu'ils ne peuvent pas vieillir normalement.
Oui, ah oui, en plus,
Normalement, ils sont censés ne pas pouvoir vieillir. Donc il y a plein de petites choses comme ça, mais à la fin de la saison 6, on a envie de voir, à la fin de la saison 7, pardon. Qui ensuite, Joss Whedon, si je parle de saison 8, c'est que c'est Joss Whedon lui-même qui a réalisé et écrit la saison 8 animée qu'il a mis dans l'intégrale l'année d'après. Il y a des choses qui arrivent. Buffy devient lesbienne, par exemple. Moi, j'ai très envie de voir la sexualité de Buffy lesbienne, comment elle est devenue lesbienne. Elle est lesbienne dans les comics. Il y a énormément de choses qu'on a envie de voir, toutes les tueuses autour du monde, mais Buffy par rapport à Angel. Et puis qu'est-ce qu'on fait si on met une Buffy Black? Très bien, ça veut dire qu'en plus on met le thème du racisme dans la différence, quelqu'un déjà qui est différent par rapport à ses pouvoirs, en plus le thème du racisme, parfait, très bien. Qu'on mette une Buffy 2.0, ok, mais encore une fois, tout ça, même Joss Whedon part du principe que tous les fans de Buffy vont regarder, mais c'est trop tôt pour ne pas avoir dans la tête le casting original. Toutes les séries de cette époque-là qui ont fait un revival ou un reboot, je me perds dans les deux termes, mais toutes les séries de cette époque-là qui sont revenues avec les acteurs originaux, où la seule crainte c'était, ah mais ils sont pas un peu trop vieux, et on voit que pas du tout, Will and Grace, c'est le carton d'audience qu'on connaît. Et là, ça va être une des premières séries, du coup, il y aura une série culte et importante, au même stade que ou Friends, ou Will and Grace, ou X-Files. Ou aussi peu de temps après l'arrêt de la série, comme X-Files hein, en 2003, X-Files c'était 2002, où on va nous faire une nouvelle chose avec d'autres acteurs. C'est inédit, c'est la première fois que ça se passe. Donc pour moi, ça va complètement à l'échec, c'est trop tôt. Mais j'ai très envie qu'ils réussissent pour voir au
Bah
moins ce qu'ils vont
on
dire.
fait alors comme Charmed, on enlève tous les personnages qu'on connaît, on garde juste la structure des trois sœurs et tout ça. Donc là, on garderait une tueuse qui s'appelle pas Buffy, et puis voilà.
Ouais, mais c'est encore une fois le succès de cette série-là et le. L'identification, et c'est ce que voulait Joss Whedon, l'identification qu'ont les gens, il y a un personnage différent pour une sorte de personne différente. Qui que tu sois dans la vie, du plus extraverti au plus introverti, tu vas forcément te reconnaître dans un des personnages du Scooby Gang. Il y a une identification totale qui a été faite tout au long de 7 saisons. Donc là, du coup, s'ils refont, ça veut dire on oublie Scooby Gang, on part sur une tueuse, mais avec complètement de nouvelles choses.
Après, c'était, on ne peut pas savoir, il y a eu l'annonce il y a 2 jours, donc évidemment tout le monde parle sans savoir, mais c'est quelque chose qu'on n'attend tellement pas, rien que par rapport à ce que Joss Whedon
On est les
disait.
premiers, on est les mieux placés pour parler sans savoir, de toute façon.
Voilà.
Mais
Moi, je pense
regarde,
que c'est une tête vide.
Roswell a été refait. Ils ont gardé les mêmes prénoms, quoi. C'est pas du tout les mêmes personnages, mais c'est les mêmes prénoms, c'est les mêmes.
Oui, mais
Donc
encore
c'est,
une
il y
fois,
a
oui, mais
encore
encore
plein
une
de
fois,
façons
c'est un
de
peu.
faire revenir à chaque fois un concept plus qu'un nom, quoi.
Oui,
Ah, mais dans ce cas-là, du coup,
mais
c'est
c'est
un spin-off,
différent.
quoi. C'est un univers étendu, quoi, clairement.
Roswell n'a pas ça. Roswell, qui est une série que j'adore, hein, mais vraiment ruinée par le doublage en France aussi. Mais
Là
c'est une
là.
série, c'est vraiment une série pour ados que j'aimais regarder quand j'étais ado. Mais comme Charmed, mais Charmed et Buffy, quand j'en suis à au moins 100 revisionnages de la série, puisqu'ils m'ont sorti dans plein d'éditions et de formats différents et de restaurations différentes, donc je les tape à chaque fois. J'apprends encore à 29 balais des trucs, et je vois encore à 29 balais des trucs que je voyais pas quand j'avais 14 ans. Il y a tellement de sous-entendus, tellement. C'est une série tellement travaillée, ce qui n'est pas le cas ni pour Charmed ni pour Roswell à la base. Et c'est pour ça que c'est pas trop grave. Moi, je suis assez pressé de voir ce qu'ils vont faire de Roswell, par exemple. C'est sorti, non, c'est pas sorti encore d'ailleurs, Roswell.
Non.
Voilà, parce que je suis assez pressé de voir ce qu'ils vont
Bah, je
faire.
préfère voir Roswell que Charmed.
Oui, bon, bah pareil, moi
Bah
Charmed.
oui, évidemment.
Mais donc, alors
Buffy, il y a
pourquoi et
tellement.
comment rebooter Buffy? On n'a toujours pas répondu à la question.
Mais parce
Qu'est-ce qu'il
que
faut faire?
en respectant, soit en
Attendez!
respectant complètement l'œuvre originale, soit en complètement faisant autre chose. Il n'y a pas de juste milieu. Soit on est complètement dans l'esprit de l'œuvre originale, soit on prend le thème de cette adolescente différente à 15 ans, métaphore de plein de choses qui va vivre, et on part sur autre chose.
Surtout
Mais
qu'il faut
c'est
faire,
quelque chose
on
de
peut,
bien,
enfin, faut
Buffy.
essayer de marcher sur les mêmes traces que Buffy, mais tout en apportant aussi une certaine modernité que la série avait déjà à l'époque, mais quitte à la refaire maintenant, faut apporter aussi tout ce que la société a apporté maintenant.
Ouais, mais du coup,
Donc c'est
c'est
ça
quoi
aussi
la
le défi, quoi.
modernité? Est-ce que c'est intéressant de voir une Buffy qui a un smartphone avec elle, une Apple Watch? Enfin, je sais pas, ça me paraît. Non?
Bah ils auraient Vampire Go, où ils ont tous les vampires.
Oui, c'est
Sur
ça,
leur
hein.
map, et
Comme
puis
dans Flash, ils ont leur application pour détecter les vampires.
non, mais et je pense qu'en plus, dans toutes ces histoires, toi, j'y réfléchissais ce matin. Je pense que c'est surtout toute une génération qui les gens qui aiment Buffy sans plus ou qui ont découvert il n'y a pas longtemps qu'il y a un reboot ou un revival avec une autre Buffy, un autre casting, c'est pas grave tant que la série perdure et l'univers également. Pour tout un tas de personnes et de spectateurs auxquels j'appartiens, le fait de voir un. Je pense qu'il y a ça aussi dans la colère de ce fandom-là, c'est totalement subjectif. On voit aussi dans le fait, dans cette annonce, cette officialisation, oui, on refait Buffy sans le casting original, avec une nouvelle Buffy. C'est aussi un deuil qu'on doit tous faire d'une énorme partie de notre vie, d'une énorme partie de notre adolescence, et de se dire, oh là là, maintenant, il y a tout à. Enfin, ça nous appartient plus, c'est quelque chose de. C'est psychologique, mais c'est très. Quand Buffy a démarré à la télé en France en 1998, c'est l'adolescence de plein de trentenaires ou de quarantenaires qui ont eu leur adolescence avec ça. Et le fait de ça enlève, c'est psychologique, ça nous demande de faire le deuil sur toute une partie de notre vie en disant, bah, voilà, maintenant ce sera plus juste ça, il y aura ça, mais il y a autre chose qui va arriver. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi. On fait un deuil à une idée d'un film qu'on avait, ou alors d'un spin-off avec eux. Voilà. Et là, ça entérine 15 ans de rêve, en fait. De ça aussi, je pense.
D'accord, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Question piège, Kevin, toi qui es acteur, imagine, on fait une version française de Buffy et on te propose un rôle. Même si c'est pourri, tu acceptes ou pas?
Ouais, non, 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 non. Non, maintenant, parce que du coup, je suis acteur, mais je suis journaliste aussi, et tout ce que j'ai fait dans tous mes écrits autour d'analyse de Buffy, etc. et tout, maintenant, c'est pas possible. Non, non. Freaks and Geeks, ce serait forcément mal fait et pourri, mais j'irais, je me dirais, ah, mais il y a possibilité que ce soit peut-être un petit peu bien. Il y a 1,5% de chance que ce soit bien, même si a priori, ça sera nul, parce que ce sera en France. Buffy, non. Il y a à aucun moment on peut écrire. On n'a pas du tout d'autres. On a les auteurs, mais malheureusement, on ne leur donne pas la parole. Pour faire une vraie série de science-fiction avec plein de métaphores et aussi bien écrit que l'était Buffy, je vois pas ça dans mon angle de vue en France.
D'accord, bah très bien. Bon bah voilà, bah c'est la fin de cette
Bon.
émission.
Oui.
Merci Iris.
Oh bah de rien, ça
Ah
m'a fait
bah
plaisir
écoute.
de venir écouter Kevin.
Iris qu'on retrouve quelques fois sur Small Things.
Tout à fait.
Et pas mal de fois sur les internets.
Tout
Et
à fait.
Kevin qu'on retrouve un peu partout, hein, vous-même.
Oh, Si, oh, je m'en fous, après j'en suis. À la rentrée, pareil pour mes monologues et mes tunnels autour de vieux acteurs et tout sur le groupe VL Média.
Ben merci à tous et merci de nous écouter, nous être fidèles. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.